Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Daniel Rondeau est un écrivain qui enjambe merveilleusement bien les frontières. Né dans un petit village de la Marne, un département grand aimant de l'histoire, il a découvert, adolescent, le charme absolu de la Méditerranée, une passion qui ne l'a plus jamais quitté depuis. Entre cette Champagne verdoyante et cet Orient enchanteur, Daniel Rondeau s'est lancé dans un parcours dense, riche et hétéroclite. D'abord militant maoïste, puis ouvrier quelques années, il s'est ensuite plongé dans l'écriture, comme journaliste un peu, puis comme écrivain beaucoup. Daniel Rondeau a également été ambassadeur de France à Malte, puis à l'UNESCO, et il est depuis 2019 membre de l'Académie française. Nous avons la chance de le recevoir cette semaine au micro de Canal Académie, car il a publié en 2023 deux livres, deux déclarations d'amour à des terres qu'il chérit viscéralement, la Champagne et puis Beyrouth, ville magnétique dans laquelle il a voyagé de nombreuses fois et qui vit aujourd'hui des heures sombres. Daniel Rondeau, bonjour.
Bonjour Marie.
Alors, je le disais dans l'introduction, vous êtes membre de l'Académie française depuis 2019. Vous avez été élu au fauteuil numéro 8. Et comme le veut la tradition, lorsqu'un nouvel académicien est installé, il reçoit une épée qui fait partie de son uniforme, qui est personnalisée selon la volonté de celui ou celle qui la reçoit. Et vous, Daniel Rondeau, vous avez fait graver sur votre épée d'académicien deux choses, deux dessins qui ont une portée hautement symbolique pour vous, avec d'un côté l'étiquette du vin de votre grand-père, qui était vigneron champenois. Et puis de l'autre, vous avez fait inscrire la carte de la Méditerranée. Donc la Champagne d'un côté et puis
tout est là, de l'autre côté. On peut arrêter l'émission.
Est-ce que vous vous sentez profondément divisé, Daniel Rondeau ?
Oui, depuis mon enfance, je vis d'une certaine façon en ayant l'impression que j'ai le cœur divisé. Je suis né dans un petit village de Champagne, dans un village de vigneron. Mon grand-père habitait dans un autre village de vigneron aussi, assez proche, où j'ai passé beaucoup de temps pendant les vacances. Et j'ai beaucoup aimé ces années d'enfance, la nature, la présence de la nature, les vignes, le jardin, aussi l'atmosphère des locaux où travaillait mon grand-père, la cave avec son odeur, le cellier avec une autre odeur, le pressoir. J'avais l'impression que je pouvais m'accorder au monde. Vous savez, il y a des gens, leur village ou leur petite ville, c'est une prison. Ils veulent s'en échapper. Moi aussi, je voudrais m'en échapper.
Mais
ça n'a jamais été une prison. C'était plutôt une sorte de métaphore du monde. Et par le ciel de mon village, j'avais envie d'entrer en relation avec des horizons lointains. Et pour ça, j'étais aidé parce que dans l'église de mon village, mes parents étaient instituteurs, des instituteurs laïcs, mais j'ai reçu une éducation catholique et je fréquentais l'église le dimanche et je regardais de ce village. Et quand je regardais les vitraux, qu'est-ce que je voyais des scènes qui se passaient à Jérusalem, au Golgotha, à Damas. Tout ça me parlait d'autres horizons que les collines et les vignes
de votre Champagne.
De Champagne. Et en fait, je me suis retrouvé comme sans doute des générations de paysans européens qui ont vécu avant moi depuis très longtemps, qui avaient les pieds dans la glèbe et qui avaient les yeux dans les étoiles d'un autre ciel. Donc, j'avais cette impression d'avoir le cœur divisé. J'éprouvais une sorte de tentation de l'Orient. Alors, les premiers livres que j'étais un enfant qui lisait beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres de voyage. Bon. Et puis ensuite, naturellement, j'ai lu tous les écrivains qui avaient fait le voyage du Liban, de Beyrouth.
Vous lisiez beaucoup. Votre père, vous avez inscrit à la librairie du village.
Oui, mon père est fait instituteur, milieu modeste, Chalon-sur-Marne. Et mon père fait quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, pour son temps et pour son milieu. Quand je rentre en sixième, il me dit « Je vois que tu aimes la lecture. Je t'ai ouvert un compte dans une librairie de la rue d'Orfeuil, qui s'appelait la librairie de l'Union républicaine, et tu pourras aller acheter tous les livres que tu veux. » Donc, je ne m'en suis pas privé. Je revenais du lycée à bicyclette. Je regardais la vitrine. La littérature française était un jardin. Je voyais des noms qui s'étalaient en vitrine. Malraux, Morand, Aragon, Giono, Camus.
Très important pour vous.
Très important. Donc, j'ai énormément lu. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ma vie bascule un petit peu. Le premier écrivain qui m'attire vers le Sud, c'est Giono. J'ai une réelle passion d'enfance pour Giono. Vous savez, les premiers titres de Giono. Giono me fait découvrir le soleil de Provence. Et puis, un peu plus tard, au lycée, je lis Camus. Et Camus me fait traverser la Méditerranée.
Si on revient sur cette enfance, vous êtes né au Mesnil-sur-Oger, donc un village de Champagne. Vous avez l'air de dire que vous avez conservé des souvenirs très heureux, malgré, vous l'avez dit, cette enfance dans une ville, entre guillemets, triste. C'est comme ça que vous la, c'est comme ça que vous la décrivez, mais vous ne vous êtes jamais ennuyé.
Non, mes années d'enfance, c'est le lycée Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne, c'était une cité militaire, administrative, avec un grand séminaire. Je pense que c'était une ville assez triste, mais c'est vrai que jamais je ne m'y suis ennuyé. Donc, je parcourais à vélo les rues de Chalon, j'explorais, j'allais me baigner dans la Marne dès qu'il faisait beau en pensant que c'était la Méditerranée. Voilà, j'étais un enfant rêveur et intrépide et lecteur.
Avec donc Jean Giono et puis Albert Camus, qui était un écrivain très important. Mais comment la rencontre avec le Liban, en particulier à travers la littérature, dans un premier temps, s'est faite ?
Alors, le Liban, elle se fait à travers différents livres. Il y avait notamment une collection qui s'appelait « Contes et légendes ». Et il y avait « Contes et légendes d'Orient », il y avait des « Contes et légendes », il y avait des chapitres sur le Liban, donc c'est là que j'ai commencé à arriver au Liban. Puis ensuite, il y a eu des livres de Barrès sur le Liban, Pierre Benoît, « Châtelaine du Liban ». Donc, et puis ensuite, j'ai lu Chateaubriand, Flaubert, Lamartine. Donc,
par des écrivains qui sont allés là-bas.
Qui sont allés là-bas, bon. Et j'étais toujours attiré par le Liban. En fait, quand je commence mon pèlerinage méditerranéen, qui dure encore, dans les années 80, je vais commencer par Tanger, Alexandrie. Enfin, bon. Mais c'est en 1987, un matin, j'écoute la radio, il est 7h30 du matin, et j'entends un chef d'État arabe, libanais, qui parle de démocratie et de lutte contre le terrorisme d'Hafez el-Assad. Et là, je suis réellement surpris d'entendre un chef d'État arabe revendiquer à la fois la démocratie, très fortement, et sa lutte contre le terrorisme d'Hafez el-Assad. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille voir cet homme. Donc, le lendemain, j'ai pris un avion pour Beyrouth. Je me suis présenté à la présidence. C'était Michel Aoun qui parlait à ce moment-là. Quoi qu'on pense ensuite de l'action de Michel Aoun comme président, moi aussi, je pense qu'il a failli comme président. Mais à cette époque-là, il a une voix très singulière dans tout ce Moyen-Orient. On voit l'importance de ce que peut avoir une voix singulière aujourd'hui dans ce Moyen-Orient. Donc, je me suis présenté. Le palais de Bagdad avait été bombardé par les Syriens. Les murs étaient endommagés, les toits étaient crevés. Des sentinelles en armes, en treillis. J'arrive en taxi, hein. Je n'ai pas de recommandation, je n'ai rien. J'arrive en taxi, le taxi est obligé de faire du slalom entre les trous d'obus. Et il me dépose à la porte de Bagdad. Là, les soldats me disent, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je me dis, je m'appelle Rondeau et je viens voir le général Aoun. Donc, ils notent mon nom. Ils disparaissent pendant assez longtemps, presque une demi-heure. Et puis, ils reviennent, ils me disent, bon, venez, on va aller voir le général Aoun. Il était dans un bunker avec sa famille, ses trois petites filles, sa femme. Et là, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. Et en une demi-heure, nous étions devenus amis. Et bon, cette amitié ne s'est jamais démentie.
Toujours. Donc, lors de ce premier voyage, on est en 1987, vous avez 39 ans, c'est bien ça ?
Oui. J'étais déjà allé à Beyrouth plusieurs fois avant, deux ou trois fois, mais pour des raisons presque littéraire, uniquement.
Et justement, parce que vous dites que vous n'aimez pas faire du tourisme quand vous voyagez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant tous ces voyages au Liban, à Beyrouth ?
La plupart des voyages que j'ai pu faire, notamment après 1987, c'était pour essayer d'aider les Libanais, qui étaient dans une situation assez compliquée. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais bien que cette histoire résonne toujours de façon très singulière en notre temps, en Je pense naturellement à ce qui s'est passé le 7 avril et à la réplique d'Israël. Mmh. À cette époque-là, les Palestiniens, chassés de leur terre naturellement, étaient venus s'installer dans le sud du Liban. Ils avaient été accueillis à bras ouverts par toutes les communautés religieuses du Liban. Et petit à petit, ils ont pris leurs aises, ils se sont installés, et ils ont créé ce qu'on a appelé le Fatahland, une sorte d'État dans l'État libanais, soutenu souvent par des puissances étrangères. Les Libanais se sont organisés en milices d'autodéfense pour défendre leurs terres, leurs maisons. Et ça a été la naissance d'un conflit de guerres internes où les gens se défendaient, les milices confessionnelles se battaient les unes contre les autres, et tout étant plus ou moins le jouet de puissances étrangères. C'est ce qu'un grand journaliste libanais avait appelé la guerre des autres. Moi, j'ai vécu toutes ces années en essayant d'aider à ma façon, c'est-à-dire avec mes armes qui sont modestes, c'est-à-dire ma plume.
Bien sûr, votre culture.
D'aider ces Libanais qui cherchaient leur liberté.
Et vous avez dit également, en embarquant pour le Liban, c'était mon vieux pays que je cherchais, j'avais besoin qu'il m'envoie des preuves de vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Tout à l'heure, vous avez raconté dans ma petite biographie que j'avais été révolutionnaire à 20 ans, j'avais travaillé à l'usine.
En Lorraine ?
En Lorraine, j'ai travaillé pendant près de 4 ans. Donc, quand nous sommes aperçus que nous précipitions contre un mur, que nous n'arriverions jamais à installer peut-être la justice parfaite dont nous rêvions, j'ai décidé que si je ne pouvais pas changer le monde, j'allais passer ma vie à le raconter. C'est-à-dire, j'ai retrouvé ma vocation d'enfance. Ça faisait longtemps, j'avais toujours voulu être écrivain, enfin, depuis l'école primaire. Mmh. À ce moment-là, j'ai dédié toute ma vie à l'écriture et j'ai profondément essayé, par mes livres, quand je le pouvais, simplement en racontant des histoires ou en racontant la vérité de ce que je voyais, en témoignant.
Et sur ces preuves de vie que vous cherchiez de votre vieux pays?
Oui, alors ces preuves de vie, c'est vrai que, en fait, je m'aperçois, quand je sors de l'usine, je n'ai pas lu pendant 5 ans.
Par choix?
Par choix et par... je travaillais à l'usine toute la journée, je militais en sortant de l'usine et la nuit. Donc, on a mené une existence assez singulière, que je ne regrette pas du tout, parce que c'était pour moi... j'ai fait à l'usine, je suis dans un chantier où il y a une trentaine d'ouvriers, des jeunes ouvriers qui sont des petits voyous français, avec des serpents, des tatouages. Il y a des ouvriers maghrébins, des fenwickers, marocains, tunisiens. Il y a des ouvriers plus âgés qui ont fait 36. Et en fait, je suis adopté par eux. Et je ne suis pas avec eux, je ne suis pas comme un intrus. J'aurais dit qui j'étais, je me suis présenté. Mm-hmm. Je ne suis pas considéré comme un intrus, mais je suis considéré comme un ami ou comme un frère. Si vous voulez, cette expérience de l'usine, ces années à l'usine, c'est un cadeau pour moi du destin, parce que j'ai, à 20 ans, une expérience de la fraternité assez unique, inattendue et profonde. Et quand je sors de l'usine, je m'inflige des années de rattrapage. Je lis tous les livres que j'ai envie de lire. J'écoute toute la musique classique, Bach, Schubert, Mozart. J'essaie de reprendre tout ce que nous avons failli brûler. Je lis beaucoup de livres d'histoire et je m'aperçois qu'en même temps que j'ai une passion pour la littérature, j'ai fait mon choix. J'ai décidé que j'allais construire mon arche en papier, mon arche de Noé en papier, qui allait me permettre de traverser la vie. Et en même temps, je m'aperçois que j'ai une passion pour la France. Et simplement, cette France, on se demande, on se pose toujours des questions, encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vraiment celle dont nous rêvons ? Est-ce qu'elle est à la hauteur des exigences de l'histoire ? Ou est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes des autres peuples, des autres nations ? Et c'est vrai que quand j'arrive au Liban, c'est aussi mon cher vieux pays que je venais chercher. Et je n'ai pas été déçu, je l'ai trouvé. Parce que, naturellement, les Libanais ont une passion pour la France, pour la culture française, pour la langue française, absolument extraordinaire. Ce qui fait d'ailleurs une des qualités extraordinaires. Ce n'est pas la seule, naturellement. Je ne vais pas réduire la qualité du peuple libanais. C'est la passion française, quoi. Mais ça fait partie des qualités éminentes de ce peuple.
Alors, vous avez consacré de nombreux livres qui ont en arrière-fond donc, la Méditerranée, ses ports, ses îles, ses villes, bien sûr, avec donc, Tanger, vous l'avez dit tout à l'heure, Istanbul et puis bien sûr Beyrouth. Ce n'est pas une contradiction pour vous de répondre à la fois à l'appel de l'étranger, de l'Orient, d'un côté, et puis de satisfaire de l'autre côté ce désir d'enracinement, de terroir, de France?
Je suis la preuve que l'on peut aimer à la fois le proche et le lointain. Je me dis même que d'avoir tellement aimé aussi mon village, c'est pour moi de ne pas me poser de questions sur qui je suis, d'où je viens, cette lignée de gens très modestes, sans papier, de famille, sans maison.
Votre arrière-grand-père était tonnelier, puis vigneron pour votre grand-père.
Donc, ne pas se poser de questions sur notre nature, c'est aussi une façon qui va nous permettre d'aimer les autres. Je pense que c'est lié à un poète allemand qui dit « La terre et le temps nous commandent. » Dans la terre, bien sûr, il y a les racinements. Peut-être que les racines, c'est-à-dire... Et ces racinements, on peut les emporter partout avec soi. Et on peut aussi imaginer les racines du ciel, comme l'a fait Romain Gary.
Vous faites, dans ce livre, Beyrouth sentimental, toute une galerie de portraits, de personnages hauts en couleur que vous avez rencontrés lors de vos séjours au Liban. Donc, parmi eux, des hommes politiques libanais, qu'on a cités par exemple monsieur le général Aoun, ancien président de la République tout à l'heure, des écrivains bien sûr, et puis des anonymes, des gens ordinaires que vous avez croisés sur votre chemin. Vous citez par exemple le blindeur de Beyrouth, Pépé de Byblos, et puis une femme qui s'appelle Pamela Zenoun. C'est une rencontre qui vous a particulièrement marqué à Beyrouth, au Liban. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette femme?
Oui, alors c'est vrai que dans ces rencontres, je crois que la richesse du Liban, c'est vraiment son peuple. Peut-être plus que ses dirigeants. Donc, parmi dans ce peuple, il y a des personnalités extraordinaires. Vous avez parlé des écrivains. Dans les écrivains que j'ai pu rencontrer, il y a le grand poète Adonis, qui est toujours vivant. Et il y a Salas Tétier, qui est décédé. Mais on a vraiment une passion pour la langue arabe, la langue française, les autres langues. L'autre langue, d'ailleurs, c'est Salas Tétier qui dit le français, c'est l'autre langue. Donc, c'est une très, très belle expression. Il y a des artistes, des peintres, des écrivains, des gens du peuple, qui ont tous une curiosité, une intelligence, je trouve, et une générosité hors du commun. Et justement, parmi celles-ci, il y a eu, vous vous souvenez, il y a eu cette explosion dramatique.
En 2020.
En 2020, je crois que c'était le 4 août.
Exact, oui.
Tout le port de Beyrouth qui est soufflé par une explosion soudaine, avec des dégâts, des victimes. À côté du port, il y avait une clinique. Et dans cette clinique, il y a une jeune infirmière qui travaille au service des prématurés. Quand l'explosion survient, exceptionnellement, elle est assise pour parler à sa mère. Ce qui fait qu'elle va être... La fenêtre était plus haute que sa tête, et elle va être protégée du souffle de l'explosion. Elle va tomber par terre, naturellement. Mais elle ne sera pas blessée grièvement ni tuée. Elle perd connaissance quelques secondes. Et quand elle se relève... Sa première pensée, c'est dire « Où sont mes bébés ?» Parce qu'elle s'occupait de deux couveuses de prématurés. Et elle va dans une première salle où elle voit une première couveuse. Le toit est tombé, les gravats sont tombés sur la couveuse. Elle se met à paniquer, à pleurer. Et elle va voir l'autre couveuse et elle s'aperçoit que là, il y a deux nourrissons de prématurés qui sont vivants. Et elle prend ces deux prématurés. Cette salle se trouve au premier étage, je crois, de l'hôpital. Elle descend pour se réfugier dans une salle protégée, au rez-de-chaussée. Elle raconte qu'elle fait très attention de ne pas glisser tellement il y a de sang dans l'escalier. Elle arrive au rez-de-chaussée, la salle protégée, le bunker qu'elle cherchait n'existe plus. Et là, elle sort dans la rue. Elle se dit, il faut que je sauve ses enfants. Et elle veut marcher, elle veut aller emmener ses enfants chez sa mère, qui habite à 15 kilomètres. Elle prend l'autoroute à pied. Il n'y a plus de voiture. Toute la vie est stoppée. Et elle marche en serrant ses enfants qui n'ont jamais pleuré encore. Même elles s'inquiétaient, elles avaient peur qu'il soit mort, elles vérifiaient. Bon, et puis ensuite, une voiture passe, s'arrête et l'emmène dans un hôpital proche, tenu par des religieuses. Elle voit la mère supérieure. Elle me dit, je viens, j'ai deux prématurés. Oh, la mère supérieure dit, la couveuse est débranchée. Je m'occupe de tout. Et en fait, elle a sauvé ses deux enfants de façon extraordinaire.
Une femme très courageuse.
Non, elle est incroyable. Et elle en parle avec une modestie. Un an plus tard, elle est allée à l'anniversaire de ses deux enfants. D'ailleurs, je crois qu'il y a un chiite et un orthodoxe, ou un maronite, je ne sais plus.
Et elle fait partie de cette catégorie de gens qui refusent de voir leur pays sombrer.
Oui.
Et pourtant, Daniel Rondeau, vous avez senti pour la première fois, il y a quelques années, ce pays en flagrant délit de désespérance.
Oui.
C'était à quel moment précisément?
Non, mais c'est là, c'est après
explosion.
L'explosion du port. Oui, cette infirmière-là, elle me dit, j'ai repris mon travail. J'ai dans le même hôpital, elle me dit oui. Malheureusement, beaucoup de médecins sont partis au Qatar travailler parce qu'ils ne veulent plus travailler au Liban, ils ont trop peur. Et le Qatar offre des salaires très confortables. On connaît la chanson, hélas. Mais je lui dis, mais et vous, vous n'êtes pas tenté? Moi, je suis infirmière. Si mon pays est malade, je le soigne. C'est formidable. Alors, cette désespérance, c'est à partir du 4 août. J'y suis allé en hiver, l'hiver dernier, au mois de décembre. Bon, là, j'ai senti que beaucoup de gens partaient. Beaucoup d'écoles sont fermées. Depuis longtemps, il y a eu le Covid, il y a eu le 4 août. Brusquement, le pays, je sentais le pays en panne. Bon, j'y suis retourné au mois de juillet. J'ai senti un regain de vie.
Vous restez optimiste?
Je suis d'un naturel optimiste. Je fais confiance aux Libanais, mais bon, ils sont dans une position difficile. En même temps, pour les consoler, je leur dis, nous sommes tous dans une position très difficile aujourd'hui.
Alors, les contextes sont très différents, mais en vous lisant Daniel Rondeau, on peut être tenté de faire un rapprochement entre la destinée du peuple béroutin et celle des ouvriers lorrains que vous avez documenté dans un de vos précédents livres, Chagrin lorrain, qui a été publié en 1979. Le Grand Est, et en particulier la Lorraine, est un territoire industriel, aujourd'hui marqué par le chômage, la pauvreté. Vous parlez dans Beyrouth sentimental, au sujet des béroutins, d'un peuple prisonnier du présent et d'une existence qui ne les satisfont pas. C'est également le cas pour certaines populations en France aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Il y a dans notre pays des régions où la population se sent abandonnée. J'avais publié il y a un an un roman qui s'appelait Arrière-Pays, qui se passait dans une champagne qui n'est pas la mienne, entre Troyes, Brienne de Château, Don Rémy, Colombey. C'est-à-dire un pays d'histoire très riche. Il y a eu là les comtes de Champagne, les foires de Champagne, qui étaient des foires européennes, des foires internationales, qui apportaient de la prospérité, du mouvement, des idées. Il y avait deux grands hommes, Rachi, qui était le rabbin Rachi, qui était un des plus grands intellectuels juifs que la France ait jamais connu. Et à la même époque, il y avait Bernard de Clairvaux, qui a, d'une certaine façon, participé à la recréation de l'Europe avec son mouvement de fondation d'abbayes cisterciennes ou bénédictines dans toute l'Europe. C'est-à-dire, c'est un mouvement à la fois de travail manuel, les moines travaillaient, ils ont défriché, ils ont semencé, ils ont récolté, et en même temps, c'était un grand mouvement spirituel au service des pauvres. Donc, dans cette région où il y a eu ce bouillonnement intellectuel, ce bouillonnement économique, ce bouillonnement politique, puis plus tard, la présence de Jeanne d'Arc, Don Rémy, Bonaparte, étudiant en Brienne de Château, la tombe du général de Gaulle, la Colombey. Or, dans cette région, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans mon roman Arrière-Pays, un, les gens ont perdu la mémoire. D'autre part, les industries, toutes les petites industries, verreries, métallurgiques, avaient d'ailleurs été créées par les moines de Clairvaux. Tout ça disparaît et les gens n'entendent plus, en tout cas nos hommes politiques, ont oublié de s'adresser à ces gens-là. Nos hommes politiques, ils parlent des catégories bien particulières, et c'est bien ciblé, mais ils ne voyaient plus cette France qui était sous leur radar politique, qui d'ailleurs ne protestait pas, ne disaient rien. Et ces gens avaient l'impression que le sol de leur pays se dérobait sous leurs pas. Donc, ils se disent, voilà, ils n'ont plus de passé. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils n'en ont plus de passé. Le passé est une force. Ils n'ont plus de passé, ils ne voient pas d'avenir. Leurs enfants ne travaillent plus ici, ils sont partis et ils sont seuls. Ils ont, bon, voilà, la vie, les satisfactions d'aller au supermarché, remplir leur caddie. J'avais voulu raconter dans ce roman l'histoire, enfin, j'ai pris une vendeuse de supermarché que j'aimais beaucoup, et qui, bon, pour symboliser, et puis aussi un vieux verrier, et puis un homme des bois, mangassien, pour symboliser cette population qui peut aujourd'hui en France se sentir brusquement abandonnée et loin de son pays alors qu'ils habitent au cœur du pays.
Alors revenons à Beyrouth. Dans ce livre, Beyrouth sentimentale, vous nous apprenez que ce terme Beyrouth vient du phénicien, qui signifie puits, puisque la ville de Beyrouth abritait des sources d'eau fraîche en grand nombre. Et c'est le cas aussi au sens figuré. Beyrouth est une oasis de liberté, c'est comme ça que vous la décrivez. C'est une ville où on écoute autant les pères des églises que les imams musulmans. Est-ce que c'est ce qui différenciait le Liban des autres pays du Moyen-Orient ?
De tous les deux autres pays arabo-musulmans. Ça a toujours été un espace d'oxygène et de liberté pour tout le monde, pour les savants, y compris pour les savants, les exégètes du Coran, qui ne peuvent pas publier forcément leurs travaux ailleurs, qui venaient les publier dans des librairies, dans des éditions chrétiennes à Beyrouth. C'est aussi un pays de liberté, de bon, vie quotidienne pour les femmes. Et d'ailleurs, tous les émirs d'Arabie Saoudite et du Qatar venaient vivre à Beyrouth la vie qu'ils s'interdisaient ou qu'ils interdisaient à leur peuple de vivre dans leur pays.
C'est encore le cas aujourd'hui ?
Ouais.
Un mot sur le christianisme oriental, vous l'avez évoqué à l'instant. C'est un thème qui revient souvent dans vos livres, vous en parlez dans Beyrouth sentimentale, mais également dans votre livre sur la Champagne. Dans cette Europe orientale, on retrouve des communautés qui ont appris donc, à vivre avec l'islam au cours des siècles, avec donc, les Coptes, les Maronites, les Chaldéens. Aujourd'hui, ce sont des communautés qui sont menacées. Des villages chrétiens se vident en masse au Liban. C'est une partie de l'identité du pays qui s'effondre.
C'est une partie de l'âme qui s'en va. Il y a toujours eu des massacres des minorités chrétiennes en Orient, ce n'est pas nouveau. Et la France a toujours été la protectrice des minorités en Orient. Mais l'invasion américaine de l'Irak en 2003 a installé, d'ailleurs je l'ai écrit à cette époque-là,
déjà,
installé un chaos pour longtemps, non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Ce que nous vivons aussi dans nos banlieues depuis longtemps, ce qui est le thème d'un des nôtres de mes livres, Mécanique du chaos, c'est aussi l'une des conséquences, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des conséquences de l'invasion américaine en Irak. Or, c'est vrai que là, en Irak, les minorités chrétiennes ont été vraiment pourchassées, maltraitées par l'État islamique, quand il est allé jusqu'à Mossoul, puis à Karakoch. Ce sont les prêtres, d'ailleurs, des pères dominicains qui ont sauvé les manuscrits yézidis, vous savez, d'une autre minorité.
Chrétienne.
Et on voit bien que, aussi, j'essaie de parler en pesant mes mots, mais l'islam politique a changé et que l'emprise des salafistes, des frères musulmans, devient de plus importante et de plus en plus générale. Donc, cette force de haine s'exerce un peu aujourd'hui partout.
On apprend d'ailleurs qu'on vous a imposé une interdiction de séjour au Liban pendant 10 ans. Pourquoi ?
Ben ça, ce sont les Syriens. Les Syriens, ils n'étaient pas contents d'un livre que j'avais publié, il s'appelait Chronique du Liban
rebelle. Publié en 91.
Oui. Et donc, quand ils sont rentrés dans Beyrouth, ils ont affiché ma photo à l'aéroport, interdit d'entrée.
Et donc, vous n'y êtes pas retourné pendant...
Je ne suis pas retourné pendant 10 ans. C'est une affaire assez drôle parce que pour le sommet de la francophonie, sous la présidence de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, qui était secrétaire général de l'Élysée, m'appelle.
En 2002.
En 2002, c'est ça. Et me dit, le président veut absolument que tu sois présent pour la Beyrouth, capitale à la francophonie, il veut que tu sois là. Je lui dis, mais tu remercieras sincèrement le président, mais tu lui diras que son ami Hariri m'a interdit de séjour. Et donc, il m'a rappelé 5 minutes après, il m'a dit, ça y est, tout est arrangé. Bon.
Et vous y êtes retourné.
Et j'y suis retourné.
Il y a un écrivain qui tient une place à part dans votre panthéon littéraire, c'est Albert Camus, on l'a évoqué au tout début de l'entretien. Vous le citez régulièrement. Adolescent, vous l'avez découvert en lisant La Peste. Et puis adulte, vous avez consacré un essai sur l'écrivain, Camus ou les promesses de la vie. C'est donc l'auteur qui vous a emmené par-delà les rives de la Méditerranée. Il disait qu'il s'était fixé de vivre en étant ni bourreau ni victime, en faisant référence à ce qui se passait en Algérie. Ouais. Et vous, dans Beyrouth sentimental, vous faites un parallèle avec la situation au Liban. Est-ce que vous pourriez l'expliquer ?
Au Liban, et aujourd'hui maintenant, en Israël et à Gaza. Donc naturellement, c'est la seule ligne que nous pouvons adopter, me semble-t-il, si on veut vivre avec un peu de dignité. Donc, je comprends bien évidemment la réaction d'Israël. Les massacres du 7 octobre sont d'une singularité tragique incroyable, dans la cruauté, dans l'horreur. Donc, on a franchi une sorte de palier. Il est normal que Israël se défende, c'est même son devoir de se défendre. Bon, les Palestiniens, aujourd'hui, de Gaza, ils vivent un enfer. Ce sont aussi maintenant, ils sont victimes de leurs dirigeants. Le président Abbas, qui est un président corrompu, qui n'a aucun pouvoir, et qui ne s'est plus du tout occupé de son peuple. Et le Hamas, qui a pris le pouvoir, est devenu un mouvement totalement islamique et un mouvement de haine. Son objectif n'est pas de sauver le peuple palestinien. Son objectif, c'est de propager partout une haine contre ceux qui ne sont pas salafistes ou frères musulmans. Donc ça devient... On est dans une situation tragique.
Avec des bourreaux et des victimes.
Avec des bourreaux et des victimes, et parfois les deux ensemble.
En même temps. Au Liban, vous y retournez régulièrement aujourd'hui ?
J'y suis retourné au mois de juillet, parce que j'étais invité. Il y a eu une édition libanaise de mon livre.
Et donc, de Beyrouth sentimental.
Oui, une fondation, qui est la fondation Corme, Charles Corme, avait organisé une présentation de mon livre. J'y suis allé pour ça.
Alors, à côté de vos voyages donc, à Beyrouth, vous fréquentez les fauteuils de l'Académie française. Et vous avez, depuis quelques semaines, un nouveau secrétaire perpétuel, Amin Maalouf.
Ça tombe bien.
Écrivain franco-libanais, justement, qui a donc bien sûr beaucoup écrit sur le Liban. Et cette élection représente un symbole fort pour la francophonie. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette élection ?
Déjà, j'ai pensé à Amin Maalouf avant qu'il soit élu. Ouais. Et je me suis réjoui profondément. Bien évidemment, c'est un symbole très fort. C'est un écrivain. Donc c'est très important pour moi. C'est un écrivain qui vient du Liban, qui a les deux nationalités, naturellement, nationalité française, nationalité libanaise. Donc, il va défendre l'immortalité de la langue française, comme c'est notre devoir à tous. Mais il va le faire avec cette position peut-être un peu oblique dont je parle, qu'ont parfois les Orientaux face au monde, et qui ont connu, qui ont affronté beaucoup de dangers, traversé des périodes de fortes turbulences. Donc, je pense que ça lui donne une sagesse, peut-être, dont l'Académie aura besoin.
Et vous, personnellement, vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec Amin Maalouf sur ce lien, ce pays qui vous rapproche ?
Oh non, mais bon, c'est une évidence pour nous deux. Vous savez que j'ai déjà un passeport libanais. On m'a donné un passeport libanais.
Quand ça ?
En 89, je crois.
Donc, vous n'avez plus besoin de visa pour...
Si. Je n'utilise pas mon passeport libanais.
Et bien justement, je voulais finir sur un mot, Daniel Rondeau. C'est le mot visa, puisque c'est le nom qu'on vous a attribué quand vous êtes devenu immortel. Ouais. Il faut savoir que quand on devient académicien, on attribue un mot du dictionnaire de l'Académie française au nouvel élu. Et donc, à vous, l'écrivain voyageur, on vous a attribué le mot visa. C'était un pur hasard ?
Non, je crois qu'il ne l'avait pas attribué à l'écrivain voyageur, il l'avait attribué au diplomate, parce que c'est le consul qui délivre les visas. Moi, j'ai répondu plutôt en écrivain. J'ai répondu en écrivain, et le pour un écrivain voyageur, le visa, c'est deux satisfactions. C'est de voir c'est un peu sa collection sur son passeport, voir les endroits qu'il a fréquentés, qu'il a traversés. Et puis, en même temps, c'est une nostalgie. Ça peut être la nostalgie d'un monde où il n'y avait pas de visa. Non, le prince de ligne parle justement d'une Europe sans frontières et sans passeport. Donc, bon, on est loin de cette vision idéale, mais c'est peut-être pour demain.
Merci beaucoup, Daniel Rondeau, pour cet aller-retour Chalon-Beyrouth. J'espère que cette discussion donnera aux auditeurs l'envie de découvrir autant les vignes de votre champagne que les ports beyrouthains. Ils sont à découvrir donc, dans deux livres. Je rappelle leur titre, donc « Ma champagne, mon pays », disponible aux éditions Équateur, et puis « Beyrouth sentimental », disponible aux éditions Stock.
Merci Marie.
Merci Daniel Rondeau.
Canal Académie.